Chemin de crête.
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 Chemin de crête, un festival et parcours artistique dans le massif des Voirons par la Villa du Parc, centre d'art contemporain d'intérêt national.
Chemin de crête.
Chemin de crête propose l'écoute de trois pièces. Tribulation d'un jeune voix au Voiron ou pédologie, image, imaginaire et orthopédie d'Ambroise Thiesche. D'un désert ou une montagne, Crocus de Felicia Atkinson et de Tétis de Gilles Gasparina sur une musique originale de Julie Semourose.
Tribulation d'un jeune voix au Voiron ou pédologie, image, imaginaire et orthopédie. Il y a un peu plus d'un an que je n'étais pas remonté au Voiron. Au quotidien, quand je les regarde depuis Genève où je vis, je peux faire mentalement le chant contre chant, y être et les regarder simultanément. Se superposent alors leur aspect du moment, la carte IGN 3429ET au 25 millième, blanchie au pli que j'emporte à chaque balade, telle portion de chemin plus ou moins raide sur le versant est, la pêche miraculeuse de Konrad Witz montrant en 1444 le versant ouest des Voirons bocagés jusqu'au sommet, la vue depuis le signal sur le bassin lémanique, Genève, la pente rapide en direction de la chapelle, et le Jura. Je ne suis plus devant le spectacle d'un paysage, je suis dedans. La continuité est établie, bien que les éléments qui la composent soient de nature différente. Notons que pour les habitants de la Vallée Verte, devant, c'est la Menoge ou le Brevon, la Pointe de Branta, le Loup, Mijouet. Il n'y a plus la séparation des plans et des éléments d'avant en arrière, comme autant de plans d'un décor. La Rade, les Eaux Vives, la colline de Coligny, Vézna, Asnières, les Voirons, la pointe de Marcely, le Môle, le Salève, le massif du Mont-Blanc, le ciel. Cette sorte de composition picturale sera revisitée et complétée à l'occasion d'un périple d'une quarantaine de kilomètres. Ce 15 avril, après-midi. En plaine, temps pluvieux, frisquet, saupoudrage de neige sur la crête des Voirons. Je démarre. Les vêtements de randonnée et les gants de moto conviendront pour le trajet comme pour la balade. J'entre dans ce qui était il y a encore un petit moment une image où change souvent le point de vue. À la différence du train, de l'avion où l'on découvre le paysage en retard ou en biais, la conduite nous fait découvrir les éléments de face, comme les jeux vidéo en vision subjective. Traversée de la Rade, sortie de Genève par la route de Malagnou. Passer la frontière, un bref tronçon d'autoroute longeant Annemasse, puis franchir l'Arve et la suivre pour remonter sur le plateau. Sur la route de Taninges s'opère la transition de la ville au village. Cranvesale, Bonne. À Filinges, la bifurcation ouvre une nouvelle perspective, déjà plus montagnarde. Montée vers Boëge, le col de Saxelles et enfin, l'arrêt au bord de la D50, un peu en dessous des Granges Gaillards. La marche débute sur un chemin, direction le monastère de Bethléem, via celui de la Transfiguration, vers le Signal. Voilà que commence petit à petit le singulier voyage dans les saisons que permettent, voire imposent, dictent en tout cas, les incursions à la montagne. Le printemps a officiellement débuté depuis près d'un mois, ça ne bourgeonne pas vraiment pourtant. Le ciel est bas. Hormis les oiseaux, le bruit des pas, de la pluie sur le sol, c'est le silence. Là, le regard change un peu, en avant pour s'orienter, latéral pour regarder, mais aussi vers le sol. Il faudrait voir à ne pas se foutre par terre. Au fil des pas, la respiration se cale, l'esprit vagabonde. Tiens, pourquoi deux monastères? Le nom Bethléem ouvre un tout nouveau paysage, le Proche-Orient, les religions du livre, l'interminable conflit, l'imaginaire fantasmatique de chaleur semi-désertique. Ah, de nouveau la route. Coup d'œil à la carte. Suivre la route, puis environ 300 mètres après la grande épingle à cheveux, emprunter la piste à gauche, direction chez Ruffieux. À l'entrée de celle-ci, une boîte aux lettres normalisée, en métal peint sur son piquet un peu de traviole, avec deux noms, dont l'un à consonance slave. La végétation est un peu plus en retard, ça ressemble de nouveau plus à l'hiver finissant. Est-ce que la boutique du monastère vend du miel? Ça m'arrangerait. Quelques taches de neige mouillées, ça et là, puis, d'un coup, le parking du monastère de Bethléem. Un de ces moments à la saveur mitigée où se mêlent simultanément la satisfaction d'être arrivé à une étape, le retour aux matériaux urbains banaux dont la balade est censée nous éloigner, et une vague sensation de s'être fait avoir où on se dit « mais on peut y arriver par la route ». Le méli-mélo de sentiments passés, l'objectif provisoire devient la boutique. Une fois acheté le miel, des Pyrénées via la communauté, et un pot de confiture de nectarine, une nouvelle étape se dessine. Le signal, pour le panorama. Vraiment, comme enfant, on marche à la montagne avec des buts successifs. Tiens, je fais de la buée en expirant. La pluie se mêle de neige, la montée continue vers l'hiver. Avant le signal, le sol devient presque sablonneux, de ce grès si délité qu'il a une consistance de cassonade. C'est juste, ces plis préalpins sont notamment composés de roches détritiques. L'histoire du lien imaginaire avec Bethléem prend un autre relief et les rêveries reprennent. À l'arrivée au sommet, cette fois sur les Voirons, où le regard rebascule sur l'autre versant, avec l'habituel panorama, celui qui récompense de la montée et... rien. Enfin si, un lavis clair de brume et de pluie mêlée de neige. Pas de lac, pas de Genève, pas de Jura. C'est moins dramatique, c'est reposant. Mais le son de la quatre voix au pied de la montagne vient rapidement rogner l'enchantement méditatif et les métaphores faciles du sublime après l'effort. La lumière faiblit. Il faut penser à redescendre pour rentrer en ville après avoir repris contact avec cette montagne pour nourrir le présent texte en préparation. À la montée, sur de la montagne à vache où l'on marche, on ne dit pas ascension, voyons. La respiration occupe principalement l'esprit. À la descente, ce sont les genoux, l'équilibre qui prennent le pas. Elle commence par le chemin toboggan boueux, rythmé de racines, menant à la chapelle. Un peu casse-gueule, mine de rien. La luminosité est faiblarde, le relief pas évident à distinguer. Puis le chemin s'élargit. La tension baisse d'un cran, le regard peut recommencer à porter plus loin. Plus qu'une petite demi-heure avant de retrouver la moto et redescendre vers le printemps. Plus vieux, mais printanier quand même, plus bourgeonnant déjà. La moutonnière. Tangente à une épingle à cheveux de la route. Pisser un coup. À nouveau silencieux, pas une voiture, les oiseaux sonores mais invisibles. La lumière baisse, une grande clairière, de coupe sans doute. La vue porte. Quelques charmes ou être, je ne suis pas assez prêt pour vérifier l'essence au moyen du dicton, le charme à dents, le être à poil, sont encore roux. Les bourgeons n'ont pas encore poussé les feuilles d'automne. Une langue de brume avance tranquillement, masquant petit à petit le fond de la vallée. Le chemin est boueux, les chaussures s'enfoncent et ventousent et font des bruits de succion, c'est amusant. Je me sens comme un enfant, jouant à l'aventure. Dans un petit moment, je serai une douleur dans la cheville, comme un éclair dans un nuage, un sale craquement. Là, ça devient un peu une autre histoire.
Tétis. Elle s'est assise sur le sol humide, en haut de l'étendue herbeuse qui descend du parking vers le monastère. Le sommet n'est pas loin. Son visage est rougi, moite. Ses lunettes goûtent. Elle les pose au sol, elle respire. Elle respire à plein poumon cet air plus frais que celui de la vallée qu'elle a quittée ce matin. Elle n'a plus d'odorat, elle ne sent rien. Aucune odeur, juste la fraîcheur. Une fourmi grimpe sur le verre droit, elle escalade la petite paroi de matériaux organiques amincis. Un véritable bijou technique, léger, solide de ses 15 couches plus fines qu'un cheveu. La fourmi atteint le rebord en résine ocre où elle se hisse, s'arrête quelques instants, puis avance sur la crête avant de redescendre par la face nord du verre gauche. Son buste est rougeâtre, son abdomen foncé. C'est une fourmi rousse des bois. Elle retourne sur la terre humide de la pente, disparaît sous une feuille de tussilage et lorsqu'elle ressurgit de l'autre côté de la fleur, elle tient une miette dans ses mandibules. Elle la suit du regard, la fourmi avance vite, précisément, elle contourne les obstacles, grimpe, redescend avec agilité. Son abdomen se balance, mais la miette solidement tenue ne bouge pas. La vive fourmi s'éloigne. Elle se lève pour la suivre. 100 millions d'années d'évolution séparent ces deux mouvements, celui de l'hyménoptère et celui du corps de primates bien outillés, protégés par des matériaux issus de la lente décomposition de résidus d'organismes vivants, extraits du sol terrestre, et d'un peu de fibres végétales toutes fraîches. Le corps géant est penché vers le corps minuscule, il avance à petits pas pour suivre la masse sombre porteuse de sa miette, à l'approche de la colonie. C'est un dôme de 80 cm de haut. Une magnifique architecture de brindilles, d'herbes séchées et d'épines engluées dans la résine. La surface ensoleillée grouille d'ouvrières qui transportent de la nourriture, des feuilles et des proies. Quatre fourmis charrient en marche arrière une chenille, elles la traînent jusqu'à l'une des entrées du dôme où les cinq corps disparaissent. Au sommet, certaines se réchauffent avant de retourner à l'intérieur de la structure apporter la chaleur aux autres ouvrières endolories par le froid. Leurs corps sont de merveilleux petits radiateurs solaires portables. Elle passe sa main au-dessus du dôme. Des dizaines de fourmis se redressent et orientent leurs abdomens vers le ciel. Elle projette des jets de liquide qui atteignent sa main. Une odeur vinaigrée se dégage qu'elle ne sent pas. Ça pique légèrement une entaille au creux de sa paume. Elle éloigne sa main. Les ouvrières nettoient les résidus de la substance sur leur mandibule, puis reprennent leur activité. Elle saisit son téléphone dans sa poche et fait quelques recherches. Jet de fourmi, puis acide formique, puis danger acide fourmi, ce qui l'amène à acide méthanoïque et acide hydroxycarboxylique. Pas de danger en vue, mais elle trouve de belles vidéos de fourmis projetant à des hauteurs insoupçonnées leurs jets piquants. Entre des publicités pour du skier, le service de dépannage d'un fournisseur d'accès à Internet et des pompes à chaleur, des vidéos trop longues qu'elle ne parvient pas à supprimer, elle découvre de bonnes histoires aussi. On peut traiter les ruches à l'acide formique contre la varroose, une infection de l'abeille due à un acarien, le Varroa destructor. Quel nom! Mais l'acide utilisé est un produit phytosanitaire, il n'est pas directement produit par les fourmis. En revanche, certains oiseaux prennent des bains de fourmis pour se protéger des parasites. Cette pratique, appelée formicage, aurait peut-être des effets stimulants voire hypnotiques. Elle a fait du formicage sans le savoir. Elle apprend aussi que des chercheurs travaillent à la mise au point d'une technique pour que le CO2 puisse servir de base à une nouvelle chimie verte et soit traité non plus comme un déchet mais comme une matière première. Et puis l'acide formique est cosmique. En 2018, un groupe de chercheurs en astrophysique a détecté pour la première fois sa présence dans un disque protoplanétaire, celui de TW Hydrae. Cet acide simple sert de base à la synthèse d'acide carboxylique, plus complexe, utilisé par la vie sur Terre. HCOOH est la première molécule organique contenant deux atomes d'oxygène détectés dans un disque protoplanétaire. C'est une preuve que la chimie organique y est très active, expliquent les scientifiques. Bien que des colonies gigantesques de fourmis extraterrestres vivent dans ce disque protoplanétaire, pense-t-elle. Elle s'éloigne du dôme et grimpe jusqu'au signal par un passage boueux qui colle à ses semelles et ralentit son mouvement. Elle s'enfonce à chaque pas, mais vient à bout du chemin très raide. De là-haut, on ne voit rien du sol. La vallée verte est sous les nuages, comme le lac et comme les villes. Seules les montagnes se découpent au loin. Les Alpes et le Jura brillent dans le soleil de midi. Ça bouillonne de moutons à queue. Il lui semble qu'elle assiste en direct à l'océanisation des Alpes, à l'envers. Dans ses cours de géologie déjà lointains, elle avait appris l'existence de Tétis, cette mer peu profonde qui recouvrait l'Europe dans un temps beaucoup plus lointain encore que ses cours de géologie. Tétis s'est lentement fermée quand les plaques africaines et européennes sont entrées en collision, il y a 65 millions d'années. Poussant les jeunes Alpes vers le haut, puis le Jura adolescent, qu'on prend à tort pour un vieux massif érodé à cause de ses formes douces et de l'âge des sédiments qu'on y trouve, alors qu'il continue de croître sous l'action des Alpes. Elle se rappelle qu'au Jurassique, la région était recouverte de lagunes, d'îlots coralliens. Le Jura ressemblait aux Bahamas. Ce serait beau, un Jura devenu tropical. Bien sûr, il faudrait que les peintres revoient leurs palettes et leurs motifs, qu'ils oublient les vaches et les marcheurs et apprennent à peindre des crocodiles géants, à restituer le mouvement ondulant des prairies de Posidonie et les formes précises des gorgones. Mais ce qui attend la zone, c'est plutôt le dessèchement. L'eau qui ne fait plus que passer dans les roches calcaires et des alpages désertés, et le ravitaillement par les hélicoptères de l'armée. Troquer le vert brillant pour un orange martien suffira. Un petit bout du Salève dépasse de la mer mousseuse et blanche qui a tout recouvert. Ça monte, tout doucement, à flux régulier. D'énormes volumes d'air humide se dilatent sous ses yeux. Chaque goutte d'eau subit l'attraction des étoiles les plus distantes, et du soleil, et de la lune. Quand la lune était plus proche de la Terre, alors que notre planète n'avait que quelques centaines de millions d'années, des marées rageuses, des blocs liquides gigantesques déferlaient sur le bord des continents plusieurs fois par jour. D'en bas, à vélo sur la voie verte les jours de beau temps, elle a souvent pensé que la ligne légèrement ondulée, presque droite, formée par les voirons, les faisait ressembler à une immense vague prête à déferler sur le lac et le bassin. Une vague massive de 1500 mètres de haut, du genre de celle qu'on voit dans les films catastrophes les plus spectaculaires. Quand une météorite géante frappe la Terre, que les plaques continentales fondent et que la mer engloutit tout et remet les compteurs planétaires à zéro. Il y a aussi un point de vue depuis lequel il est facile d'imaginer que le môle est un volcan, bien aligné au centre de la vallée. Un jour, on entendrait le bruit assourdissant d'une immense explosion pyroclastique, puis des nuages incandescents dévaleraient les pentes à toute vitesse. Et tout serait détruit. Les routes, les parkings de supermarchés, les zones commerciales et les entrepôts, les usines, les cabinets médicaux, les jardins fleuris et les écoles, toute la domesticité satisfaite et respectable, tout ce qui aime et a aimé, les activités essentielles et toutes les autres, les communautés de biens, de travail et d'intérêt. Ne resterait que les reliefs éventrés et fumants du volcan et de la lave séchée dans la vallée. Ou bien un matin, on entendrait un grondement dans un champ et la terre s'ouvrirait et laisserait déborder du magma gluant qui monterait en un dôme immense. Une averse de pluie noire s'abattrait sur la zone et il faudrait évacuer. Plus tard, elle deviendrait un site touristique, où les restes de cette vie passée seraient exposés dans des dispositifs scénographiques sophistiqués. Elle vacille. Elle avance jusqu'au bord de la crête et se penche. Inspire profondément. L'air est plus doux, gorgé de chaleur. Les nuées ont changé d'aspect, elles sont denses, irisées, moins tourbillonnantes. Les rides se creusent en mouvement lent, la perspective s'éclaircit. Un paysage sous-marin de montagnes se dessine sous ses yeux. Des filaments de méduses géantes se prennent dans les branches. Des perches écarlates et poilues avancent entre les racines coralliennes. Myrmex, Tétis, le lynx, les mollusques et les oursins, les lys de mer fixés sur le fond marin, leurs longues tiges surmontées d'un calice, leurs multiples bras flexibles flottant dans l'eau. Des poissons plats, d'autres circulaires aux mâchoires puissantes qui broient tout, les ammonites, les nautiles, la queue d'espèces encore inconnues qui ondulent, les vaches qui broutent des algues, des loups à branchies qui dévorent des requins nourrices, des mérous nageant dans les forêts de pins, les polypes des laconiques bleutés qui ondoient. Le limon devient transparent et scintille, des colonies d'axalures se dessinent en gros ballons moelleux et rosacés, entourés de bouquets d'alpinothéorium. Le tournemont fleurit partout sur la vase. les libellules viennent pondre de petites grappes à la surface de l'eau. La marée de nuages à queue a atteint le port de la crête transformée en plage verte, émeraude, turquoise, mantalou. Elle ôte ses chaussures de marche et ses chaussettes, remonte au genou son pantalon et elle avance lentement, prudemment dans le tiède. Le sol est ferme. C'est un sable très fin et doré sur lequel reposent par endroits des épines de pin et des carapes calcifiées. De minuscules poissons chatouillent ses chevilles. Elle sent d'agréables morsures sur la plante de ses pieds. Elle avance encore. Son pantalon mouillé colle à ses cuisses. La chaleur atténue l'endolorissement de ses muscles. Elle se réchauffe. Elle se relâche. Elle plonge son corps tout entier dans l'eau, puis se met en position de flottaison. Tétis la porte et murmure des histoires très anciennes. Tétis chante le futur des espèces vivantes, des créatures artificielles et des continents. Et elle reste là, les yeux fermés, bercée par les vagues.